Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une atroce fortune ou de prendre les armes et d'y mettre fin? Mourir. Dormir, rien de plus.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more.
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs? Mourir, dormir, c'est tout.
To be or not to be, that is the question.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est, on le sait bien, une histoire de fou racontée par un idiot. Ce Hamlet, mal dans sa peau et qui croit aux fantômes, va mettre pas moins de 5 actes à concrétiser sa vengeance envers l'assassin de son père. Et cela lui prend tellement de temps que les cadavres d'innocents vont s'amonceler autour de lui. Et avant le bain de sang final, ça parle, ça éructe, ça disjoncte, ça dit des grossièretés et des blagues idiotes. À se demander comment une telle pièce a pu fasciner à ce point depuis 5 siècles. Car ces mots résonnent toujours dans nos mémoires et aucune œuvre n'a été autant jouée dans les théâtres, sous tous les régimes, sous toutes les latitudes. Entré en 2005 à la Comédie Française, Loïc Corbery a conservé son allure d'éternel jeune premier. Et s'il a été Dorande, Petruccio, Christian, Perdican, Alceste, Don Juan, Rosimond, jamais, jamais, il n'avait endossé le pourpoint de deuil du prince du Danemark. Sans le regretter, affirme-t-il. Et pourtant, c'est autour de cette figure centrale du théâtre qu'il a bâti, seul aux commandes, un spectacle singulier qu'il nous donne sur la petite scène intime du studio théâtre, dans le cadre, justement, des Singulis, ces seuls en scène que la Maison Molière offre à ses sociétaires. Réflexion d'un acteur de troupe hanté par la solitude intrinsèque du comédien. Portrait inquiet et pourtant heureux d'un interprète qui abandonne sa livre de chair à chaque rôle endossé et se retrouve lesté d'autant de vie. Bonsoir Loïc Corbery.
Bonsoir.
Alors vous qui êtes un acteur de troupe, qui passez votre vie au milieu de vos camarades de la Maison Molière, il y avait cette envie depuis longtemps d'être seul, seul en scène, seul à porter des textes avec lesquels vous vivez?
À vrai dire, non. Le sentiment de solitude de l'acteur sur le plateau non, ne m'a jamais véritablement attiré. Je dois avouer que je suis très heureux, je me sens beaucoup plus rassuré quand je suis entouré par mes camarades, par d'autres acteurs, quand je suis sous le regard d'un metteur en scène, quand je suis interprète en fait, quand je suis une partition, quand je dis les mots d'un auteur, quand je suis la partition d'un metteur en scène.
Oui, mais c'est un défi. C'est un défi intéressant à relever d'être seul en scène.
L'un des acteurs qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'est un souvenir très précis et fondateur dans ma vie d'acteur, c'est Philippe Cobert. Donc évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Et puis c'est un sentiment que j'ai pu goûter quand même régulièrement ces dernières années dans certains exercices de lecture, seul ou avec un orchestre d'ailleurs, mais quand on est seul avec un texte qu'on connaît finalement à peine, puisqu'on le découvre encore en le lisant, devant des spectateurs, c'est ce petit moment-là, cette petite sensation de vertige que je cherchais à trouver sur ce spectacle.
Alors vous dites volontiers, Loïc Corbery, que Perdican était votre rêve, vous l'avez interprété, il y a eu aussi Alceste, Christian, beaucoup d'autres, des rôles plutôt de garçons à qui la vie réussit au fond, même s'ils sont un peu perplexes devant les complexités de la vie amoureuse notamment. Mais Hamlet, vous dites, mais en fait, j'en ai pas rêvé. Et puis là, quand vous êtes seul en scène, c'est quand même autour de cette figure-là que vous tournez avec les textes que vous avez apportés, avec votre personnalité. Pourquoi donc, alors, si vous n'aviez pas tellement envie de jouer Hamlet, pourquoi est-ce que Hamlet, ce que ça offre à un comédien, est justement pour vous l'essence même de l'art du théâtre?
Alors, pour être vraiment sincère, il est vrai que c'est un rôle dont je n'avais jamais véritablement rêvé en tant qu'acteur. Mais ceci dit, comme Don Juan. Et comme Don Juan, maintenant que je l'accompagne depuis quelques temps, quand même, c'est un rôle assez incroyable. Assez incroyable. Non, mais Hamlet, c'est le jeune premier ultime. En fait, je porte depuis presque 20 ans maintenant, et c'est long, à la Comédie Française, et même avant, je porte quand même en moi ce qu'on appelle un emploi, cet emploi-là, celui du jeune premier, celui de peut-être plus de la jeunesse, mais en tout cas de la juvénilité, sur un plateau de théâtre. Et j'en ai joué quelques-uns, et on m'a offert d'ailleurs certains personnages, Alceste ou Don Juan, qui sont souvent joués par des acteurs plus mûrs, on me les a proposés comme des jeunes premiers. Voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, 42, 43 ans.
Vous faites toujours aussi jeune, oui. C'est ça qui est terrible. Je pensais à vous, à Anne Kessler, qui doit être dans le même problème à la Comédie Française, qui elle aussi a gardé ce corps mince de jeune fille.
Bien sûr.
Et est-ce que c'est une souffrance, au fond, de ne pas vieillir avec des rôles?
C'est une vraie question, en tout cas. C'est une vraie question, et pour le coup, c'est une question que je ne m'étais pas encore posée, qui s'est posée d'une manière assez brutale, là, ces dernières années, avec cette quarantaine qui est arrivée, avec une paternité qui est arrivée. J'ai la chance d'être un homme, déjà, dans ce métier. C'est déjà une grande chance. Je pense que c'est encore plus compliqué, le rapport à l'âge et ce moment de bascule de la jeune première, de la jeune fille à la jeune femme, à la mère, puis à la grand-mère. Je pense que c'est un questionnement qui est sûrement encore plus douloureux pour les femmes. Mais il se pose aussi pour les hommes. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec l'âge qui arrive, avec les tempes qui grisonnent, avec les rides qui se creusent. Non, le vrai problème, c'est les metteurs en scène, et même les spectateurs, c'est le regard qu'on porte sur moi. On me voit encore comme ça. Alors que mon énergie, mon âme, elle avance avec moi.
En tout cas, Hamlet, donc, que vous nous offrez aujourd'hui, c'est-à-dire ce questionnement autour de la figure d'Hamlet, même s'il y a dans votre spectacle, Louis Corbery, des textes qu'on reconnaît de la pièce Hamlet. Hamlet, toujours Hamlet, Hamlet, c'est aujourd'hui.
Tôt ou tard, inévitablement, Hamlet, comme dans un cauchemar, se transfigure pour refléter notre propre visage. Nous pensions que 4 longs siècles nous séparaient de lui, et puis, soudain, nous voilà dans la salle où Staline, hors de lui, interrompt une représentation de l'opéra de Shostakovich, Lady Macbeth de Minsk, ou encore à Pékin, où Mao Tse-Dong fait de même avec une œuvre théâtrale, ou encore à Tirana, où Enver Hoxha en interrompt une autre. Il y a toujours un moment où les tyrans de l'horloge, pareil à l'oncle d'Hamlet, crient, épouvanté, rallumé. Cessez de jouer. Et ça n'arrive pas qu'aux tyrans. Au XXe siècle, plus qu'à aucun autre, Hamlet pourrait être le troublant reflet de tout un chacun. Il y a des... Bon, pas beaucoup, mais il y a des Hamlet dans la salle. Y a-t-il des Hamlet dans la salle? Déplacer la question n'a jamais été, car de tout temps, depuis la première représentation le 26 juin 1602 au Théâtre du Globe jusqu'à aujourd'hui, à chaque représentation, il y a eu dans les salles des spectateurs assez de vengeance. Que l'idée est un rodé qui pourra rarement s'en passer à l'acte, hein, mais il y a toujours eu dans les salles des Hamlet venus assister à la représentation de leur propre drame.
Et d'ailleurs, à la suite de ce passage, Louis Corbery, vous nous rappelez qu'à la fin de la guerre des Balkans, à Pristina, en Albanie, la première pièce du théâtre libre qui pouvait enfin reprendre ses représentations, ça a été Hamlet. C'est quand même un mystère. Pourquoi? Alors, on dit toujours pièce politique, mais on parle aussi de la vengeance. Est-ce que la vengeance est vraiment le cœur de cette pièce?
Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que le cœur de la pièce, c'est le rapport au théâtre. Le théâtre comme révélateur d'une vérité, d'une humanité, pas d'une réalité d'ailleurs, d'une vérité, véritablement.
Et donc Hamlet, c'est l'acteur.
Hamlet, c'est l'acteur. Hamlet, c'est un personnage qui fait du théâtre, c'est un personnage qui prend le masque du fou, qui se déguise en fou pour qu'on le laisse tranquille, qui va donner une représentation théâtrale pour révéler au cœur de la cour la vérité sur l'assassinat de son père et pour déclencher une réaction en chaîne. Et c'est aussi effectivement un acteur à la base qui joue ce personnage-là, qui joue lui-même l'acteur, tout d'un coup, comme souvent chez Shakespeare, je pense à Petruccio dans La Mégère apprivoisée, une mise en abîme, un vertige incroyable, où tout d'un coup les échos entre l'histoire, la fable de Shakespeare, les enjeux que Shakespeare rajoute à cette fable, le temps qui a passé depuis que Shakespeare a écrit ça, les regards portés sur cette œuvre par toutes les générations, par tous les courants littéraires, scientifiques, philosophiques, et aujourd'hui, la prise en charge par moi, acteur de 40 ans, en 2019, de cette pièce-là, et la réception par vous, spectateurs, aujourd'hui, à Paris, en 2019, de ce texte-là, voilà, on a tout d'un coup un millefeuille incroyable, incroyable, et tout d'un coup, un saut dans le vide, qui est... c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est créer des ponts entre les dimensions du temps, les dimensions de l'espace. Shakespeare est là, encore, comme Molière, c'est ce que j'essaie aussi de créer dans le spectacle, c'est des ponts entre les auteurs.
Entre les auteurs et entre les interprètes, puisque bien sûr, vous y glissez dans ce spectacle les références aux acteurs et aux metteurs en scène qui vous ont impressionné. Dans cette pièce d'Hamlet, il y avait notamment ce Hamlet qui est resté dans les mémoires, 93, Avignon, Chéreau, Gérard de Sarthe, qu'on entendait dans le générique Absolument. De l'émission. Là, c'est Patrice Chéreau qui parle de ce Hamlet, qui nous parle toujours aujourd'hui.
Tout dépend si on prend pour interpréter une Hamlet une grille strictement psychanalytique ou pas. Il s'est passé un phénomène intéressant avec Hamlet, c'est-à-dire que c'est en étudiant Hamlet et en étant fasciné par la pièce, et puis par des concordances entre sa propre vie et la pièce de Shakespeare, que Freud a découvert ce qu'on appelle communément l'Édipe. Et ce n'est pas en travaillant sur Édipe, c'est en travaillant sur Hamlet. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que Hamlet est une source inépuisable, parce que c'est comme la naissance de la psychanalyse. Maintenant, c'est vrai que les thèses psychanalytiques sont tellement évidentes dans Hamlet, et qu'on peut dire aussi tout Shakespeare à la lueur de la psychanalyse, elles sont à la fois évidentes et peu utiles, puisqu'elles sont tellement visibles. Et ce qui est intéressant justement au théâtre, c'est de montrer des comportements surprenants et incompréhensibles, c'est-à-dire de rendre par moments opaque ce que d'une certaine façon la psychanalyse rend trop clair. Puisque si on faisait une lecture ou une interprétation ou une mise en scène strictement psychanalytique d'Hamlet, ça voudrait dire qu'on montrerait un personnage qui comprendrait, ou qui se soumettrait à la psychanalyse ou qui comprendrait tout ce qui lui arrive, alors que justement il ne le comprend pas. Donc c'est à la fois utile, il faut le savoir, on ne peut pas y échapper, mais c'est très réducteur. Je pense que c'est une pièce qui, en plus, a une donnée métaphysique ou existentielle, comme ça, profonde, sur qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, je dirais, par rapport à un conflit entre l'action et la conscience. Mais je pense qu'à un moment donné, on va se trouver dans la situation dans laquelle se sont trouvés tous les interprètes d'Hamlet et toutes les interprétations d'Hamlet, c'est-à-dire cette personne-là, Hamlet, et puis les autres, c'est notre contemporain, c'est le reflet, c'est le miroir de nos angoisses, de nos doutes. Ou de notre scepticisme profond, mais ça sera un scepticisme de maintenant, des doutes de maintenant.
En fait, je me suis trompée, c'était 88 et pas 93.
Oui, c'est 88. C'est 88. Dans la cour d'honneur, après le spectacle, il y a eu une longue vie. En 93, il se jouait encore. Oui, oui.
Mais alors là, quand Patrice Chéreau dit notre exact contemporain, c'est bien comme ça que vous avez bâti aussi votre spectacle, c'est-à-dire les ponts avec le passé, en fait, ça donne une lecture du présent aussi, de l'art théâtral, de la solitude de l'acteur, de ce que fait un acteur sur scène à travers ce prisme de Shakespeare et d'Hamlet.
Absolument. Shakespeare est évidemment l'ultime, mais c'est la beauté de tous les grands auteurs. C'est tout d'un coup de continuer à creuser notre vie aujourd'hui. Évidemment, quand on les lit, quand on les joue, quand on les interprète, quand on les écoute. Maintenant... j'ai essayé de créer, vous parliez de Shakespeare comme d'un contemporain de notre époque. Ce qui est incroyable, c'est d'essayer de faire entendre à quel point il a été contemporain à chaque époque jusqu'à nous. Et c'est la gageure que je me suis donnée sur ce spectacle. C'est d'essayer de faire entendre les paroles successives depuis, je crois que peut-être la plus ancienne, c'est Voltaire, de Voltaire. Non, c'est, enfin oui, en tout cas sur Hamlet, mais Molière est là encore et dans le spectacle, mais il n'était pas encore aussi, enfin il ne connaissait pas Shakespeare, mais Voltaire, Molière, Victor Hugo, Musset, grand lecteur évidemment de Shakespeare, inspiré par Shakespeare, Hugo de la même manière, et évidemment le XXe siècle. Mais
avec un texte absolument magnifique de Sarah Bernhardt.
Une lettre.
C'est incroyable ce texte que vous dites sur voilà, comment peut-on interpréter un rôle, qu'on soit un homme, une femme, peu importe, s'imprégner de la solitude aussi du personnage. Parce que quand elle parle de ces trois Hamlets qu'elle a interprétés, le vrai, celui ensuite de l'aiglon, qu'elle assimile tout à fait à Hamlet.
Et Lorenzo.
Donc ce sont des forces solitaires qui traversent leur temps.
Oui, absolument. Absolument. Et cette lettre de Sarah Bernhardt que j'ai découverte un jour, par hasard, dans un recueil de correspondance qui s'appelle L'Art du Théâtre, je crois, est incroyable. Incroyable. Il m'apportait aussi de faire entendre des paroles d'auteur sur l'œuvre, ou en écho à l'œuvre, et aussi des paroles de metteur en scène et des paroles d'interprète. Pour ça qu'il y a Philippe Avron et cette lettre incroyable de Sarah Bernhardt, où effectivement elle parle d'Hamlet, de certains secrets qu'elle ne dit pas d'ailleurs. Elle ne les révèle pas. Elle parle du secret, elle parle de la nécessité de s'abandonner à ces secrets-là, mais elle ne les révèle pas. Et puis elle parle de l'acteur, de l'actrice, dans le monde du théâtre, le monde de cette époque-là, de la fin du 19e, début du 20e. Qu'est-ce que c'est qu'être une actrice au théâtre, dans ce répertoire écrit par des hommes, où 70% des rôles sont des rôles d'hommes, où les rôles les plus denses sont des rôles d'hommes.
Mais elle dit que parfois les femmes sont mieux placées pour les interpréter.
Certains rôles.
Et vous parlez, Loïc Corberet, de ces fameux secrets qu'évoque Sarah Bernhardt, mais au fond, ces secrets, ce sont ceux que l'acteur doit se raconter sur son personnage, sans forcément en parler, sans forcément les étaler. Il doit se les raconter pour interpréter. Et dans ces secrets, il y a le rôle des fantômes. Ce sont pas seulement les fantômes du personnage, en l'occurrence d'Hamlet, ce sont aussi les fantômes que l'acteur lui-même apporte bien sur sûr. Le plateau.
Par essence, infidèle nous quitte pour poursuivre avec d'autres leur vie errante. Comme les particules, ils obéissent au principe de discontinuité, à la fois présence et trace, mots et phrases, apparition, disparition, au principe de non-séparabilité, le choc de deux particules à tel endroit de l'univers trouve un écho à l'autre bout. Qui peut dire l'écho d'un geste, d'une réplique, d'une apparition? Au principe d'imprévisibilité, on ne peut pas savoir la trajectoire d'une particule, on ne peut pas savoir la trace d'un rôle. Dans le grand accélérateur de particules qui est la cour d'honneur à Avignon, les mots, les corps, les gestes, les coups de théâtre sont lancés à des vitesses, suivent des voix qui échappe à notre entendement. Un soir où j'y jouais Hamlet, au moment où le prince ordonne à l'assemblée de se taire, un enfant qui pleurait dans les gradins s'est tué brusquement. Plus tard, son père m'a raconté que l'enfant lui avait dit « Le fantôme m'a parlé ».
Loïc Corberet, vous êtes sur la scène du Studio Théâtre, sous le carrousel du Louvre. Vous êtes venu avec vos fantômes, vos propres fantômes. Ils sont parfois drôle, parfois tragique. Ce sont en fait toutes ces voix qui vous accompagnent depuis que vous avez décidé d'être acteur. Vous les restituez en partie, probablement pas tous, mais en partie sur cette scène. Ça faisait partie de ce que vous vouliez donner pour la première fois étant seul.
C'était pas un préalable au spectacle, mais ça s'est révélé ces derniers temps. Enfin, je m'en suis rendu compte a posteriori. Au départ, je voulais juste prendre cette œuvre, la mettre en écho avec d'autres paroles que celles de Shakespeare. Et je me suis rendu compte très vite que ces autres paroles étaient des paroles qui m'étaient chères. Des gens que je connaissais, parfois. Et des gens que j'ai à peine rencontrés, comme Patrice Chéreau, et des gens que je n'ai jamais rencontrés, comme Jean-Louis Barrault. Mais évidemment, les fantômes sont là, les fantômes existent. Il y a quelques secondes, quelques minutes, on vient d'entendre la voix de Patrice Chéreau. Bon, voilà, il a disparu il y a 5 ans, mais il était avec nous, il est avec nous ce soir. Il parle avec nous, on discute avec lui. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les soirs, de continuer à discuter avec Jean-Louis Barrault, avec Patrice Chéreau, avec Jacques Lassalle, voilà, il y a des fantômes qui sont là d'une manière très très évidente, parfois volontaire, et d'autres qui sont là d'une manière plus sourde et sûrement très inconsciente.
Mais en fait, on se rend compte quand on lit ce que vous avez écrit pour présenter ce spectacle, Loïc Corbery, que la solitude est un fondement de votre activité d'acteur, peut-être aussi quelque chose qui vous préoccupe en tant qu'être humain, tout simplement. Mais en même temps, un acteur, il est à la fois très solitaire et très entouré, parce que il a justement autour de lui ses voix familières, ses écrits. Donc au fond, c'est un peu paradoxal. Ah,
c'est totalement paradoxal, c'est même un énorme mensonge. On parle de solitude. Alors oui, j'ai été seul pendant 2 mois de répétition, et je suis seul en scène. Déjà, tous les soirs, je suis seul, tout est relatif, je suis quand même devant 150 spectateurs, avec qui je converse. Et puis, oui, l'air de rien, je me suis quand même créé une belle distribution autour de moi. Je me suis quand même ramené quelques jolis partenaires de scène, soit par leur voix directe, soit la musique, qui aussi est un partenaire privilégié, qui moi m'emmène, et puis les voix des auteurs que je donne, enfin, que ce soit Ismaël Kadaré, Philippe Cobert, Philippe Avron, Patrice Chéreau, ce sont mes partenaires, et il y en a quelques-uns, et ils sont pas si mauvais.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La tragédie d'Hamlet est une pièce grossière et barbare qui ne saurait être supportée par la plus vile populace de France et d'Italie. Hamlet, il devient fou au second acte, sa maîtresse folle au troisième. Le prince tue le père de sa maîtresse, feignant, tue un rat. Et l'héroïne se jette dans la rivière. On fait sa fausse sur le théâtre. Là, des fossoyeurs disent des colibés dignes d'eux, hein, tenant dans leurs mains les têtes de mort. Hamlet répond à leur grossièreté abominable par des folies non moins dégoûtantes, et pendant ce temps-là, un des acteurs fait la conquête de la Pologne. Allez. Hamlet, sa mère, son beau-père, boivent sur le théâtre, on chante à table, on se querelle, on se bat, on se tue. Il semble que cet ouvrage soit le fruit d'un sauvage ivre. Et parmi ces irrégularités grossières, on trouve dans Hamlet des traits sublimes, dignes des plus grands génies. Il semble que la nature se soit plus rassemblée dans l'esprit de Shakespeare, ce qu'on peut trouver de plus grand, de plus fort, avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas, de plus détestable.
Loïc Corbery, de qui est ce texte que vous dites sur la scène du Studio Théâtre? Vous ne voulez pas le dire peut-être?
Ah si, si, oh, bah, ça va, il y a prescription. C'est une critique que Voltaire fait du théâtre élisabétain, notamment du théâtre de Shakespeare, dans une préface, il me semble que c'est la préface de Sémiramis. Voilà, où il se rengorge de la qualité des règles du théâtre français. En parodiant un peu les règles bafouées du théâtre élisabétain, notamment de Shakespeare, notamment d'Hamlet.
Alors ces textes,
il en est revenu un peu avec le temps.
Ces textes, bien sûr, certains on les reconnaît, on entend Bergman, Sarah Bernhardt, on reconnaît volontiers. Et puis d'autres, en fait, c'est pas très gênant de ne pas savoir et de ne pas savoir à quelle date justement ils ont été écrits, tel ce texte de Voltaire. Mais alors, il y a, vous avez forcément dû faire des textes de liaison, mais on ne fait pas, ou alors il n'y a pas une parole de vous dans tout ça? Pas une seule?
Pas une
seule. Et alors pourquoi?
Parce que je n'ai aucune confiance dans un talent que je pourrais avoir à écrire. Non. Déjà, être seul en scène, prendre ça en charge, c'était suffisamment vertigineux pour moi. Si en plus il avait fallu que je me lance dans une écriture originale, non, ça aurait été un peu compliqué. Ceci dit, le montage en soi, le montage de ces textes,
oui,
le montage avec cette musique, avec ces voix, le montage en lui-même est quand même une forme d'écriture, je m'en rends compte.
Oui, c'est un portrait de vous, au fond, que vous nous offrez.
Ça, c'est sans doute.
Alors, c'est pas du tout impudique, mais c'est un portrait de vous. Mais de même, curieusement, que tous ces rôles que vous avez interprétés, Loïc Corbery, rôles que vous n'avez pas forcément choisis au départ, au fond, il nous offre un portrait. Est-ce que c'est un portrait fidèle? Est-ce qu'à travers Alceste, Perdican, est-ce qu'à travers ces rôles qu'on vous a demandé d'interpréter, est-ce qu'au fond vous vous reconnaissez? Est-ce que ce que vous laissez dans un rôle est équivalent à ce que ce rôle vous offre?
Dans la pièce, Hamlet prend le masque du fou. Il se fait passer pour fou. Quand on se fait passer pour fou, au bout d'un moment, ça rend un peu fou. Donc, quand Hamlet prend le masque du fou, il se raconte un peu. Je me rends compte, avec le temps, quand on est acteur, on fait ce métier pour des raisons différentes. Et on le fait de manière différente. Plus le temps passe... au départ, j'avais le sentiment que d'être acteur, c'était tout d'un coup merveilleux parce qu'on allait vivre d'autres vies. On allait raconter d'autres histoires. On allait prendre d'autres visages, d'autres voix. Et puis plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est l'inverse. Quand je prends en charge Alceste, Don Juan, Perdican, une juriste dans Figaro Divorce d'Horvath, ou Sarah Bernhardt, là. C'est moi que je raconte. Et je me raconte de plus en plus, et j'accepte de me raconter de plus en plus. Je me rends compte que c'est la plus belle chose que je puisse offrir au rôle, et que je puisse m'offrir à moi. La première fois que j'ai ressenti ça d'une manière un peu éprouvante, bouleversante, je devais avoir 20, une trentaine d'années. J'avais repris le rôle de Dorante dans Le Menteur en Salle Richelieu. C'était une reprise. Et je me suis tout d'un coup lancé en scène dans ce rôle énorme de ce jeune homme qui ment au monde entier pour se faire aimer. Déjà ça, quand on est acteur, ça laisse songeur. Et puis, dans une des scènes avec Bruno Raffaelli, je me vois raconter un aveu, en tout cas, de ce mensonge et de pourquoi je mens et de pourquoi je pourrais être aimé. Et je me suis rendu compte, mais d'une manière vertigineuse, qu'à ce moment-là, je ne faisais que parler de moi. Devant 800 spectateurs, je me mettais à poil, véritablement. Et les gens ne s'en rendaient pas compte. C'est un moment assez marquant. Et puis je n'ai fait que... Plus le temps passe, et plus j'éprouve ça de manière de plus en plus évidente et importante pour moi.
Mais d'ailleurs, vous venez de parler du misanthrope dans le cas de Hervieux Léger, qui va être repris d'ailleurs à Richelieu en juin-juillet.
Oui.
Un très très beau misanthrope dans lequel vous étiez Alceste. Et vous dites toujours que, en fait, vous êtes, vous, profondément, vous vous sentez plus Philinte qu'Alceste. Et pourtant, cet Alceste, il vous ressemble. On se souvient du début du misanthrope d'Hervieux Léger, cette solitude, vous êtes en imperméable, dans une pièce vide, vous approchez d'un piano. Et quand on regarde les photos qui ont été choisies pour présenter ce spectacle d'Hamlet, on vous voit tout seul, appuyé contre un mur, généralement. Un peu répétitif, à la solitude contre un mur avec un livre dans les mains. Mais je me suis dit que ça disait aussi quelque chose. Et d'une certaine manière, cet Alceste de votre ami Hervieux Léger, il vous ressemble, même si vous vous sentez davantage Philinte. Donc il y a quelque chose dans ces rôles qu'on vous offre qui doit correspondre à ce que les metteurs en scène voient de vous,
sans doute. Mais comme Hamlet, personne n'est Hamlet, et en même temps tout le monde a quelque chose d'Hamlet en soi. Quand on lit Le Misanthrope, personne n'est Alceste, personne n'est Philinte. Tout le monde a un peu de Philinte et d'Alceste en lui. Voilà, vous avez raison. C'est Clément, c'est le regard de Clément Hervieux Léger sur moi qui fait que tout d'un coup, il va chercher tout ce qu'il y a d'Alceste en moi. Quelqu'un d'autre pourrait, et peut-être Clément d'ailleurs, sur un autre spectacle, pourrait aller chercher tout ce qu'il y a de Philinte en moi. Mais c'est sûr que je me rends compte, hein, de spectacle en spectacle, l'épreuve, la critique de l'école des femmes, le misanthrope, et bientôt à venir à l'Odéon dans un mois, le pays lointain, Clément va chercher en moi la solitude,
et le secret.
La désespérance.
Et le secret.
Le secret. C'est vrai. C'est vrai.
Alors, dans ce Hamlet à part, qui donc peut se voir au Studio Théâtre jusqu'au 24 février, il y avait bien sûr un écueil autour duquel vous avez dû tourner un petit peu, quand même, Loïc Corbery, c'est le fameux être ou ne pas être qu'on entendait dans le générique de l'émission dit par tant d'autres. Et en fait, vous l'avez très très joliment franchi.
Imaginez la difficulté de réussir à se tuer soi-même. Ouais. Il fallait regarder en face tout ce qui vous glace le sang. Être ou ne pas être, c'est la question. Y a-t-il plus de noblesse dans l'âme à subir les coups, les gifles de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre elle, contre cette mer de douleur, et l'arrêter par une révolte, mourir. Dormir. Rien de plus. Et dire que, par le sommeil, nous mettons fin au mal de cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on devrait souhaiter avec joie, en mourir. Mourir, dormir. Ouais. Dormir, rêver, peut-être, c'est le problème. Hein. Car quels rêves peuvent venir dans ce sommeil de la mort lorsque nous sommes débarrassés de l'étreinte de la vie? Voilà ce qui nous arrête. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Car qui en effet voudrait supporter les cicatrices et les mépris du temps, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir, les mille petites gifles que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, si on pouvait en être quitte avec une simple lame? Qui voudrait supporter ce fardeau? Suer, grogner sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur n'est revenu, ne venait troubler la volonté et ne nous faisait préférer les douleurs que nous avons, par crainte de nous lancer dans celles que nous ne connaissons pas encore. Ainsi, la réflexion fait de nous tous des lâches.
On reconnaît le texte de Shakespeare et en même temps, c'est très différent. Ça vient d'où ? C'est une traduction différente ?
C'est la traduction de François-Victor Hugo. Ah oui. J'ai peut-être changé un ou deux mots dedans. En revanche, je crois qu'il faut que je remercie surtout Philippe Roth et le texte qui précède, qui est tiré du Rabaissement, un roman de Roth. Dans lequel c'est le personnage d'un acteur qui, en totale déchéance et désespérance, et qui notamment songe au suicide, et qui se remémore toutes les pièces dans lesquelles il l'a joué où quelqu'un se suicidait. C'est une longue réflexion avec une liste comme ça très technique de toutes les pièces dans lesquelles quelqu'un se suicide au théâtre. Et qui m'amène l'air de rien, en fait. C'est comme si tout d'un coup, de ce texte-là et du texte de Shakespeare, je n'avais fait qu'un seul, la seule différence, c'est que moi, je prends une paire de lunettes, que pour vous ça redevient Hamlet, mais moi c'est le même personnage qui continue cette même réflexion. Et j'essaye de partager au maximum l'écho de ce que je dis avec les gens qui sont en face, que ce soit une réflexion commune, je ne sais pas si j'y arrive, mais ça passe par là. En tout cas c'est sûr que Philippe Roth me permet, moi, de rentrer là-dedans d'une manière extrêmement simple, et vous permet, vous, spectateurs aussi, de rentrer là-dedans d'une manière simple, sans prise d'élan, sans grande respiration avant être ou ne pas être. Non, c'est tout ça est plus simple et je pense pas si tragique que ça. Dans la tête de ce qui l'afflige, c'est la réalité, c'est le monde qui l'entoure, c'est d'être vivant. La perspective de la mort, au contraire, elle est plutôt réjouissante.
En tout cas, c'est une traversée à la fois théâtrale et littéraire que vous nous offrez, Loïc Corbery, et c'est un vrai bonheur de vous suivre sur ces petits chemins détournés à travers Hamlet. Hamlet, virgule, à part, c'est au Studio Théâtre jusqu'au 24 février. Ensuite, il y aura ce pays lointain qu'on attend vraiment, vraiment, avec un appétit formidable, mis en scène par Clément Hervieux-Léger. Ça sera à l'Odéon. Et puis après, il y aura la reprise du Misanthrope. Juin-juillet, vous êtes un homme occupé. C'est très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous, Loïc Corbery. Au revoir.
Merci.
C'est fini pour l'Humeur Vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.